Ça.
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 Ça. Ça. C'est jazz. Bebop.
Free jazz.
Jazz rock.
Big band.
Hard bop.
Ethno jazz.
Swing.
Jazz manouche.
Jazz fusion.
Bossa nova.
Cool jazz.
Jazz vocal.
Ça.
Ça.
Ça c'est jazz.
Ça c'est jazz.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radio Saint-Taf. C'est la rentrée de Ça c'est Jazz.
Eh, ça y est, c'est reparti pour une saison jazz.
Eh ouais, super, 2015-2016, j'espère que ça va donner que du bon. En tout cas, nous, on va continuer à parler et à écouter du jazz, n'est-ce pas Bruno?
Ouais, carrément, de toute façon, on n'a pas arrêté. Hein. Moi, j'ai passé l'été à ça. Hein.
Voilà,
ouais,
complètement. Donc du coup, on a plein de nouveaux trucs à vous faire écouter. Et on a décidé de commencer la rentrée par une émission hommage à Ornette Coleman qui nous a quitté le 11 juin 2015.
Et ouais, Ornette Coleman nous a quitté. C'est quand même une très grande perte pour le monde du jazz, mais pour le monde de la musique en général, hein, quand même. C'est il y a Dieu, c'est Coltrane, et puis il y a
son bras droit, Ornette, et puis juste un peu en dessous, il y a Ornette Coleman. Ouais, ok, d'accord. Donc Ornette Coleman, saxophoniste afro-américain, saxophoniste alto, ténor.
Ouais, il joue aussi du violon, de la trompette. Et surtout, Ornette Coleman, c'est quand même, on peut le dire, le seul musicien qui représente un style. Parce
ouais.
qu'en fait, on peut dire qu'il est... Bon, pas lui, il aimerait pas d'ailleurs qu'on dise qu'il
non.
est l'inventeur.
Mais par contre, il est complètement associé...
au free jazz.
Au free jazz, ouais, voilà. Ouais. Donc vous voilà avertis, auditrices, auditeurs, ça va être une émission consacrée au free jazz.
Ouais, une émission libre, donc.
Oui, c'est ça. Et on va commencer avec le début de la carrière musicale d'Ornette Coleman dans les années 50. Ornette Coleman est originaire de Fort Worth au Texas et il a migré à Los Angeles parce qu'il faut dire qu'il y avait plus d'émulsions musicales que dans le cœur du Texas, j'imagine, dans ces années-là. Donc en Californie, et c'est le bassiste Red Mitchell qui le découvre et qui en fait va lui donner un peu des clés pour pouvoir avoir accès à des studios et il va commencer à enregistrer des albums fin des années 50.
Il ouais, faut savoir que déjà, c'est l'époque où Charlie Parker est très en avant et il connaît Charlie Parker sur le bout des doigts. Hein. C'est un fan de Charlie Parker.
C'est ça, il connaît Charlie Parker par cœur.
Par cœur,
voilà,
ouais,
ouais, voilà, ok. Ouais. Et donc, on vous propose de commencer avec le premier morceau de son premier album. Le premier album s'appelle Something Else, avec 4 points d'exclamation, c'est-à-dire quelque chose d'autre. Donc, c'est dire un peu ses ambitions musicales. Et on a choisi un morceau qui s'appelle Invisible, ce qui est assez... En fait, moi, j'aime bien ça, cette idée que le premier morceau enregistré par Ornette Coleman s'appelle Invisible, alors que ça va devenir une des grandes figures ouais. du jazz.
Il ne le savait pas encore à l'époque,
non,
mais
c'est sûr.
Voilà. Il allait devenir un des piliers de la musique, même contemporaine, actuelle. Il a ouvert, on en reparlera plus tard.
Tout à fait. Invisible. We'll be right back.
C'était Invisible de Ornette Coleman, un album de 58. Comme on a pu l'entendre, il joue du saxophone et on peut pas dire que ça soit free.
Non, c'est vrai, mais on a volontairement commencé cette émission par son premier album pour montrer justement au fur et à mesure des morceaux
l'évolution
de son style musical. Ouais.
Voilà, ça qui est intéressant. Moi, ce qui me plaît dans cette émission, ce qu'on a envie d'essayer de vous faire entendre, c'est que le free, il n'est pas là pour rien.
Ouais.
Il y a un parcours. C'est un peu, enfin moi j'ai envie de ramener ça un peu à Picasso.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que quand on prend les débuts de Picasso, c'est des tableaux classiques, avec l'éclair obscur, enfin, un truc très standard. Ça évolue, et on arrive à des trucs complètement... Si on n'a pas un petit peu d'éducation sur sa peinture, on ne comprend pas. Mm-hmm. Ornette Coleman, il y a un peu un côté comme ça. Et avec le free jazz, il y a un côté comme ça. Le free jazz n'est pas venu pour rien, et il a donné ensuite d'autres choses qui font la liberté... Pour moi, la liberté qu'on a actuellement dans le jazz moderne, elle est issue de ça. S'il n'y avait pas eu le free jazz, on n'aurait pas la musique actuelle.
Ah ouais, tout à fait. Puis ce qui est intéressant, c'est que Ornette Coleman est venu au free jazz petit à petit. Là, dans cet album, on l'entend jouer en quartet. Avec Don Cherry à la trompette. Quintette. Avec Don Cherry à la trompette, Walter Norris au piano, Don Payne à la contrebasse et Billy Higgins à la batterie. Donc ça reste une formation de jazz assez classique. Et dans son deuxième album, qui date de 1959, donc à peine quelques mois après, qui s'appelle Tomorrow is a Question, Demain est la question. Donc quand même, il y a toujours cette interrogation sur l'avenir de la musique et qu'est-ce qu'on en fait. Il décide de se passer du piano, qui est par excellence l'instrument dans les ensembles de jazz qui permet de poser les harmonies. Et en fait, ça laisse une plus grande liberté aux solistes, à savoir le trompettiste et le saxophoniste.
Bien sûr, et même le bassiste, qui du coup peuvent naviguer avec beaucoup plus de liberté. Ça veut dire aussi qu'il marche beaucoup plus sur l'écoute. Hein.
Ouais, tout à fait. Et donc déjà, là, c'est une petite évolution vers le free, mais tranquille, vous allez en juger par vous-même à l'écoute du second titre qu'on va vous proposer. Donc on se passe du piano et soyez attentifs au jeu vraiment du trompettiste et du saxophoniste. Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans ce morceau, c'est que du coup on les entend beaucoup plus, on fait beaucoup plus attention à eux.
Ouais, c'est l'époque Don Cherry, il démarre, hein, ils sont tout jeunes encore là, hein, et Don Cherry démarre, pareil il va faire une carrière énorme. Miles ne pouvait pas saquer Don Cherry, hein. Il disait que ce type-là, il ne savait pas jouer de la trompette.
C'est peut-être parce qu'il pensait que ça pouvait être un potentiel concurrent,
voilà.
Non c'est...
Miles a une tête de mule.
Ok. Donc là, le morceau s'appelle Tears Inside, sur le deuxième album d'Ornette Coleman. Autre chose à rajouter, Bruno?
Non, Tomorrow is the Question, Tears Inside, c'est parti.
We'll be right back.
C'était Ornette Coleman dans Tears Inside sur l'album Tomorrow is the Question. Et on va maintenant s'engager sur quelque chose d'un peu plus sérieux,
Le nerf de la guerre.
Ouais, c'est ça, un peu plus sérieux dans le free jazz en tout cas, avec justement l'album Manifest qui s'appelle Free Jazz et qui date de 1960.
Ouais, alors du coup il va garder l'option qu'il a prise sur l'album précédent, Tomorrow is the Question, où, effectivement, il n'y a plus de support harmonique, donc plus de piano, pas de guitare non plus, voilà. Et il va évoluer au long de sa carrière dans avec cette option-là pendant pas mal d'années. Et notamment, il produit beaucoup d'albums, ce monsieur, il est extrêmement productif, et il arrive en 60 avec l'album qui s'appelle Free Jazz. Mm-hmm. Et en fait, Free Jazz, c'est un album, c'est un double quartet.
Ouais, c'est ça.
Avec, en fait, c'est le début de la stéréo, et il y a un quartet sur une voix, l'autre quartet sur l'autre voix.
Ouais.
Et il joue, en fait, il n'y a rien d'écrit. Il y a quelques...
Non, je crois que c'est ça, c'est totalement improvisé.
C'est de l'écoute.
Ouais, tout à fait, ouais. L'album Free Jazz, c'est une longue piste de 37-38 minutes, hein.
Ouais,
qui, à l'époque, du coup, a été divisé en deux parties parce que vinyle oblige face A, face B. Mais l'enregistrement, c'est genre une prise de trois quarts d'heure, quoi.
Ah, ils ont eu des CD à l'époque, ça faisait une piste pour tout le CD. Hein.
C'est ça.
C'était nos limites, quoi.
Du coup, deux quartettes qui jouent en même temps, un qui est sur le canal de gauche, un qui est sur le canal de droite. Ouais. Si vous voulez vous amuser à faire le test à la maison en basculant en droite-gauche, vous entendrez chacun des deux quartettes. Et dans un des quartettes, celui de gauche, il y a Coleman donc au sax, Don Cherry toujours à la trompette, Scott LaFaro à la contrebasse, Billy Higgins à la batterie. Sur celui de droite, il y a Eric Dolphy à la clarinette basse, Freddie Hubbard à la trompette, Charlie Haddon à la contrebasse et Ed Blackwell à la batterie.
Alors, faut noter quand même, dans cette distribution, c'est quand même le must des années qui viennent en jazz. Hein. C'est c'est complètement dingue. Quoi. Enfin, Billy Higgins à la batterie, bon, bah, il a joué partout avec tout le monde. Enfin, tout ce quoi, c'est vraiment.
Oui, c'est des grands noms du jazz. Ouais.
C'est des très grands noms. Ouais, c'est des très, très grands noms, c'est sûr.
Oui, c'est pas entouré de musiciens comme ça, des premiers venus, en disant, bon, les gars, on va délirer pendant trois quarts d'heure en studio, quoi.
Ouais, non, pas du tout, non, non. Le sax du deuxième quartet, c'est le sax qui a été attribué à Charlie Mingus pendant. Pas mal d'années. Hein.
Donc, tu parles d'Eric Dolphy.
Eric Dolphy, ouais. Ouais, ouais. Dolphy, c'était le sax de Mingus pendant très longtemps. Puisque vous écoutez Ça c'est Jazz régulièrement, vous savez qu'on a fait une émission sur Charlie Mingus.
C'est ça, ouais. Hein. Et alors, bon, je vous rassure, hein, on va pas écouter 37-38 minutes là de free jazz non-stop. On vous a sélectionné bah, juste le début, on vous a sélectionné 5 minutes de free jazz. Bon, on vous invite, si votre curiosité est éveillée, à aller l'écouter en entier. Voilà, je pense qu'en 5 minutes, vous allez déjà avoir un aperçu du truc. C'est vraiment improvisé totalement. Hein.
Complètement. Moi, j'ai envie de faire rajouter une petite note, c'est que l'album s'appelle Free Jazz. C'est un concept à l'époque qui n'existe pas. Hein, il a, voilà. Donc après, on lui a donné le nom à ce mouvement, mais un peu à l'insu d'Ornette.
Ouais, ouais,
lui,
fait,
il disait, nous, on a joué comme ça. Voilà. Bon. Et en fait, moi, je trouve que cet album, il est free, mais depuis...
Il y a eu pire.
Fait bien plus
ou
free.
Mieux,
bien plus free. Bien, là, vous allez voir, il y a quand même des parties où on s'y retrouve, hein, où ça va, les instruments se dissocient, voilà, alors qu'il y a des fois pas trop, quand même. Donc on est parti pour free jazz.
Oh,
Vous êtes à l'écoute de Ça c'est Jazz sur Radio Saint-Afrique et on vient d'écouter un extrait de Free Jazz d'Ornette Coleman.
Ça va, vous êtes encore vivant, vous avez supporté? Parce que c'est que le début. Hein.
Ouais, puis c'était qu'un extrait, hein, je le précise encore, hein, c'est trois quarts d'heure comme ça les gars, hein, enfin les gars et les filles.
D'ailleurs.
Donc je vous conseille vivement d'aller l'écouter en entier, avec un casque, c'est quand même excellent pour capter qu'il y a un double quartet et un sur chaque canal.
Ouais, c'est génial. Pour resituer un petit peu quand même, donc cet album date de 1960. Pour le contexte de l'époque, quand même, on peut se dire que, à la même époque, Miles Davis sort Kind of Blue, avec John Coltrane et Count Bolladay au sax, qui est quand même l'apogée du jazz modal.
Ouais, tout à fait. Donc vraiment une autre forme de musique.
Complètement, ouais. Et en même temps, John Coltrane sort son premier album, Giant Steps.
Où, premier album en tant que leader, tu veux
en
dire
En tant que leader, ouais. Où en fait, il a déjà ces grosses envolées qu'on connaît de John Coltrane, mais c'est quand même très différent. Mm-hmm. C'est pas du tout la même approche que ça, c'est moment.
C'est sûr. Après, il faut bien imaginer que dans les années 60, à l'époque où Ornette Coleman sort un album comme Free Jazz, c'est très critiqué aussi. Hein.
Oui.
Parce que ce genre d'approche musicale, c'est pour beaucoup d'amateurs de musique jazz, c'est un ovni, quoi. C'est le mec qui sait pas jouer. Hein.
Ouais, Ornette raconte dans un bouquin qu'un jour, à New York, il croise un jeune saxophoniste qui le reconnaît et qui lui demande de souffler dans son saxophone. Il a joué un peu et il dit « Les gens sont devenus blêmes, ils sont partis. » Et il dit « En fait, le drame, c'est que les gens ne connaissent que, n'écoutent que ce qu'ils connaissent. Quand ils ne connaissent pas, ils prennent peur. » Ça donne bien l'idée dans laquelle il évolue. Hein.
C'est, ouais, tout c'est à fait. Bien. Puis, encore une chose que je voulais rajouter par rapport à Free Jazz et aux années 60, c'est que tout ça, ça se passe aux États-Unis et que dans les années 60 aussi, les mouvements afro-américains sont en plein...
Très virulents.
Ouais, voilà. En plein boulot, ne serait-ce que ça, pour faire reconnaître les droits des citoyens afro-américains.
Ils ont réussi?
Hein, ouais, tout ça c'est fini, c'est du passé.
Ouais,
non, aujourd'hui
passé.
Tout se passe bien. Il y a l'égalité existe aux États-Unis, non? Il y a plus de problème de racisme.
Non,
non, on n'entend pas parler aux infos.
C'est passé.
Non, ouais. Et bref, heureusement qu'on écoute encore du jazz. Et tout ça pour dire que évidemment, ça a aussi une portée politique en fait, ce genre d'album. C'est un manifeste musical et un manifeste politique, histoire de dire, bah écoutez les gars, on a des trucs à dire et on compte bien les dire. Comme on a envie de les dire, quoi.
Clairement, la communauté noire a largement soutenu Ornette Coleman. C'était un peu le porte-parole, sans parole, mais c'était un peu le porte-parole, justement, de tout un mouvement, toute une idéologie, tout un élan vers la liberté. Hein. C'est aussi une époque où il y a tout ça. On a besoin de sortir des tas de choses, quoi.
Ouais, tout à fait, ouais. Voilà, donc on va enchaîner. Après cet album, donc, Manifeste Free Jazz, Ornette Coleman continue d'explorer la musique dans ce sens-là, celle de la libre improvisation. On va faire un peu un saut dans le temps et on vous propose d'écouter maintenant un morceau de l'album Science Fiction. Donc le morceau porte le même nom et il date de 1971.
71, c'est l'époque apparemment où il commence à échafauder le concept d'harmonie.
Oui, c'est vrai.
En fait, qui est un... En fait, il veut sortir des principes harmoniques habituels. Il connaît très bien l'harmonie. Hein. C'est un excellent musicien, c'est pas du tout un
bon. Oui, quand il a commencé à apprendre la musique, en fait, il a travaillé notamment l'harmonie, entre autres.
Voilà, mais il connaît très bien tout ça. Donc, il sait très bien comment on écrit. Donc, les conventions, on va dire, il les connaît. Mais justement, il a envie de les bousculer. Et l'harmonie, en fait, on pourrait dire, pour lui, c'est son concept qu'il essaye de développer. C'est le fait, quelque part, qu'en fait, on peut jouer dans plusieurs tonalités. Ensemble, on peut superposer les tonalités, et du moment que ça sonne, que ça marche,
c'est ça.
On y va.
C'est-à-dire que le résultat peut sembler dissonant, enfin, ou et même dissonant à l'écoute, mais ce qui compte pour Ornette Coleman, c'est que les musiciens, quand ils jouent ensemble, soient en condition d'écoute mutuelle, et ce qui importe, c'est la globalité du morceau, le rendu global du morceau.
Ouais, je pense que c'est même pour ça, en fait, qu'il va vers ce côté libre. En fait, c'est pour donner réellement une vraie liberté totale aux musiciens, contrairement par exemple à Miles qui lui dit, dans ses principes, Miles il est plutôt la liberté dans un cadre, alors que lui c'est la liberté totale.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Donc on
va écouter Science Fiction avec un poème récité par David Anderson, qui est un poète et écrivain américain. Science Fiction.
No. another. To be and no father. To see there I stood. Humans, they said, are made from two. One being me, the other one you. How many enemies make a soul? Don't raise my face to class my way.
Science-fiction par Ornette Coleman. Je pense que ça a dû vous remuer un peu les tripes.
Ouais, les cris de bébé là, c'est
Ouais, tout ça est sur l'enregistrement de départ. Hein. C'est pas Sandrine qui est venue en studio, qui nous a laissé son enfant. Non, tout va bien.
Non, on l'a pas martyrisé un gosse.
Ouais, c'est ça, ouais. Il n'y a pas d'enfant torturé dans les studios, je vous rassure, tout va bien. Donc tout ça est vraiment sur la piste de l'enregistrement original, quoi. Voilà, c'est voulu.
Ouais, c'est quand même pas rien. C'est impressionnant. 71. La prise de son est top.
Oui. Il faut bien se rendre compte du travail technique que ça représente aussi, ce genre d'enregistrement à cette époque.
Oui, c'est ce qu'on disait avec Jean, notre cher technicien adoré et préféré, qu'en fait, à l'époque, quand on entend des réverbes, c'est pas un petit bouton qu'on tourne pour faire wap-wap, hein, c'est du mécanique, quoi, c'est des gros ressorts, il y a plein de matériel, c'est une grosse mise en œuvre, quoi.
Ouais, complètement. Non, il y a un sacré boulot d'ailleurs, un enregistrement comme ça, qui a priori peut sembler être du grand n'importe quoi, mais qui est loin de l'être en fait, réalité.
C'est ce qu'on dit tout à l'heure, c'est un parcours. C'est un parcours,
et d'ailleurs on va continuer d'observer ce parcours ensemble, quelques années après, en 1976, alors là on est dans les 70s à mort, dans le milieu du jazz, on commence à écouter du rock aussi, un peu du funk, on se laisse influencer par des musiques nouvelles à l'époque, qui ont du succès, et ça se ressent aussi dans la musique d'Ornette Coleman.
Là, Bruno. Des petits éléments funk qui arrivent. Hein,
ouais, complètement. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il perd pas son concept d'harmolodique là qu'il a mis en place. Il laisse ses musiciens libres de jouer, mais en cherchant à être dans cette veine un peu plus funk. C'est ce qu'on va écouter avec un morceau de l'album Body Meta.
Homegrown, ouais, il faut vraiment se dire que Ornette, c'est un leader, vraiment, mais qui laisse plein de place à tout le monde. Et voilà, ça donne des choses. Alors, c'est quand même un peu différent, c'est toujours un peu free, mais il y a plus de côté plus structuré, quand même, par moment.
Et puis, il y a un côté électrique, du coup, là, qu'on va trouver dans cette musique qui date des années 70, qu'il n'y avait pas avant aussi.
Tout à fait, ouais. On est parti pour Homegrown. We'll be right back. vous êtes bien sur France Afrique Sainte Culture et nous pouvons nous rendre compte que la superposition des polyrythmies et des polyphonies engendrées par le saxophoniste extraordinaire qu'est Ornette Coleman vient nous envoûter vers un univers nouveau.
D'accord. Moi, j'ai pas capté tout ça, mais vas-y, tu peux me le refaire.
Ouais, il y aurait de quoi faire un bon dia France Culture, nous ferait un trip de marteau là-dessus.
Ah ouais, c'est clair, France Musique aussi, ça serait pas mal. Ouais. Enfin, s'ils écoutent ce genre de truc, quoi.
Ouais, ils tombent malades avant. Ouais, c'est génial, quand même, je trouve ça incroyable, toutes ces superpositions complètement folles. Il y a de quoi écouter 20 fois le même morceau, on y découvre toujours des tas de trucs.
Ouais, c'est super riche, hein.
Ouais, c'est impressionnant.
Ouais, ouais.
Impressionnant, ouais.
On va rester dans cette veine, free jazz, funk jazz d'Ornette Coleman, avec cette fois un album du début des années 80, de 1982 exactement, qui s'appelle Of Human Feelings, c'est-à-dire des sentiments humains, comme quoi la musique d'Ornette a quand même du sens, ne l'oublions pas. Il est toujours sur son concept d'harmolodique, c'est-à-dire plusieurs musiciens qui peuvent jouer ensemble, même de manière dissonante, voire sur, avec de la polyrythmie, des rythmes différents, du moment que l'intention est là, et elle est collective, elle est commune, c'est ça qui fonde la musique. Sur le titre qu'on va vous proposer, il joue notamment avec Denardo Coleman, c'est-à-dire son propre fils à la batterie.
Ouais. Voilà. On peut. Moi, j'ai envie de noter aussi la ligne de base du morceau précédent, de son bassiste préféré, Jamaline Takuma.
Qui est également bassiste sur le morceau qu'on va entendre
tout
maintenant.
Tout à fait, ouais. Ouais. Pour la petite anecdote, quand même, moi, j'ai lu un truc sur Coleman où il y a un Stan Getz, le saxophoniste super standard, on va dire, hein, quelqu'un qui joue très propre.
Comparé à Ornette Coleman,
un univers différent, raconte qu'un jour Coleman se chauffait son saxophone avant de rentrer sur scène, et il passe devant la loge et il entend jouer du Charlie Parker. Et quand il est rentré, c'était Ornette Coleman qui, en fait, quand il se chauffe, joue Charlie Parker.
Ouais, c'est pas mal, ouais.
C'est marrant quand même. Quand maintenant qu'on avance dans l'émission, que vous voyez un peu qu'est-ce que c'est que la musique d'Ornette Coleman.
Ouais, carrément. Et le fait de parler de vraiment plus de son instrument, ça me fait penser aussi que c'est un des premiers à avoir joué avec des saxophones en plastique.
Ouais.
Hein, et il peut y avoir de très bons saxophones, de très bons instruments en fait aussi en plastique, et Ornette Coleman a joué en concert avec ce genre d'instrument.
C'était du bakélite à l'époque, non?
Ouais, j'en sais rien. Écoute, hein, je suis pas constructeur de... Je suis pas facteur d'instruments. Mais, enfin voilà, je vais pas vanter les mérites du plastique comparé au métal, on est bien d'accord, mais pour la petite anecdote, quand même,
peut-être qu'ils font du métal avec du plastique.
Moi. Ouais, à voir.
En musique. Bon.
Alors, on écoute. Le morceau s'intitule Jump Street.
We'll be right back.
Ornette Coleman dans Ça c'est Jazz.
James Street, ouais, là c'est funk, hein.
Ouais. Ah bah, non, début des années 80, on a passé 80, déjà les années 70, mais ouais, début des années 80, encore esprit bien funk, ouais.
Ouais carrément. Bien, avec un bassiste, il est affolant. Mm-hmm. C'est assez génial, quoi.
Complètement. Ouais. Alors, on passe en 85 avec un album qui s'appelle Song X. Album sur lequel figure Charlie Haddon à la contrebasse, mais Charlie Haddon est un bassiste qui accompagne Ornette Coleman depuis bien longtemps déjà. Il y a deux batteurs sur cet album, Denardo Coleman, donc le fils d'Ornette, et Jack DeJohnette, grand batteur de jazz également. Et surtout, Pat Metheny à la guitare.
Ouais, Pat Metheny, ouais, le guitariste un peu décrié par pas mal de jazzeux intégristes.
Ouais.
Ben, parce qu'en fait, Pat Metheny, c'est quand même quelqu'un qui a une diversité de jeux qui est assez énorme, qui est capable de jouer complètement bebop. Parfois, on râle derrière lui parce qu'on trouve qu'il fait un peu musique d'ascenseur. Hein. Il y a certains thèmes qui peuvent parfois... Bon, ouais. Et en même temps, il a une ouverture de jeu extraordinaire. Et puis surtout, il maîtrise hyper bien la guitare synthé. Et forcément, hein, ça peut que parler à quelqu'un comme Ornette Coleman. Et comme Ornette Coleman est quelqu'un de très très ouvert, forcément, ils sont bien joués ensemble. Pat Metheny connaît aussi très très bien le répertoire d'Ornette Coleman. Hein. C'est un fan d'Ornette Coleman depuis longtemps, quoi. Donc ce disque, Song X, ouais, c'est un album notoire quand même. Il y a plein de choses... assez free, d'autres ils le sont un peu moins, mais on va tout de suite l'écouter, je propose,
ouais.
Avec Police People. We'll be right back.
Ornette Coleman avec notamment Pat Metheny. Bon, on pourrait vous dire encore beaucoup de choses sur Ornette, mais malheureusement, l'émission touche à sa fin et on aimerait bien vous faire écouter un dernier petit morceau.
Oui, un peu le tube de Ornette Coleman, Lonely Woman, qui est un morceau qui est sorti en 59,
ouais, c'est ça,
dans un album en fait qui s'appelle
The Shape of Jazz to Come, la forme du jazz à venir, donc encore un titre évocateur.
Donc juste avant Free Jazz, donc ça annonce bien. Donc c'est une version de jazz à Vienne.
C'est ça, qui date de 2008. C'est un quartet, c'est version assez soft de ce morceau, mais en tout cas on trouvait que c'était un bon morceau pour terminer l'émission.
Ouais. Donc on vous laisse sur ce morceau, on vous dit
à dans un mois, merci à Jean à la technique, et puis à très bientôt.
Salut.
One, two, three, four.